France Inter. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un monde nouveau. Chaque samedi, une heure ou presque, ensemble, pour prendre du recul sur les petits et grands bouleversements de nos sociétés. Et ce soir, retour 5 ans en arrière sur ce grand chambardement.
Vous l'aurez compris, vous le pressentez. Cette crise sanitaire sans précédent aura des conséquences humaines, sociales, économiques majeures. C'est aussi ce défi que nous devons mener.
Demain, ça fera tout juste 5 ans que le président Emmanuel Macron a annoncé à la télé le début du confinement face à la pandémie de Covid-19. Une période de près de 3 mois où chacun est resté enfermé et qui a fragilisé les jeunes en particulier. Les chiffres étaient déjà alarmants après cette épreuve et ils continuent aujourd'hui d'empirer. Selon la toute dernière étude de l'Ipsos sur le moral des ados, l'angoisse des jeunes face à l'actualité a atteint son plus haut niveau en 2024. Et ça, c'était avant la crise géopolitique actuelle. Quant au dernier rapport de l'ONU sur le bien-être déclaré des 18-30 ans, il montre que les jeunes occidentaux n'ont jamais été aussi plombés. La journaliste et militante Salomé Sacqué les enjoint à ne pas avoir honte.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point certains jeunes avaient honte de leur état de santé mentale. Mais je pense qu'il faut que les jeunes, au contraire, fassent entendre leur voix sur ce qu'ils vivent et qu'ils comprennent qu'ils n'ont absolument aucune honte à avoir, que c'est même parfaitement légitime de ne pas se sentir bien et serein dans ce contexte-là.
À l'heure de l'urgence qui dure, le moral de la génération désespérée continue de plonger, mais elle n'abandonne pas pour autant son avenir. Réinventer les normes et les idéaux de ce qu'est la jeunesse. Bienvenue dans un monde nouveau.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Comment ce mélange de chaos et d'élan pressenti par Mylène Farmer il y a plus de 30 ans nous parle plus que jamais aujourd'hui. J'accueille trois invités. Frédéric Worms, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dansez sur Mylène Farmer, bien sûr. Et vous êtes philosophe, spécialiste notamment d'Henri Bergson et de la notion de moment. Directeur de l'École normale supérieure et voisin radiophonique, puisqu'on vous entend aussi sur les ondes de France Culture. Nirina, bonsoir.
Bonsoir, je vous remercie pour cette invitation.
On est ravis de vous rencontrer en vrai. Vous avez 24 ans, vous êtes diplômée de Sciences Po Lille et de Centrale Lille et vous êtes créatrice de contenu depuis un an, très présente sur Instagram où vous faites de la vulgarisation de concepts politiques et sociologiques pour comprendre notre époque. Dans l'équipe d'Un Monde Nouveau, on vous a repéré et on a un gros coup de cœur sur vos vidéos. Bienvenue. Enfin, à côté de vous, c'est Jean-Victor Blanc. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, enseignant à la Sorbonne Université et créateur aussi du compte Instagram Culture Pop et Psy que vous avez décliné en livre et en festival. Première question d'abord à tous les trois. Comment ça va ? Comment ça va avec vous, Jean-Victor ?
Ça va plutôt très bien, merci.
Frédéric Worms.
Soucieux et joyeux, mais soucieux quand même. Hein. Je pense que pour entrer directement dans le thème de l'émission, dire que ça va totalement bien sans aucune préoccupation, ce serait faux quand même.
Nirina ?
Alors, je suis de la Gen Z, je suis concernée, mais en ce qui me concerne, ça va plutôt bien, même si je comprends la préoccupation de mes camarades de mon âge.
Oui, alors question à tous les trois, justement, parlons-en de ces camarades. Comment vous qualifierez-vous la jeunesse d'aujourd'hui ? Alors, si on dit jeunesse d'aujourd'hui, vous dites Gen Z, Nirina, on va dire elle est née après 95, les 15-30 ans, disons. Voilà, pour un petit peu circonscrire l'objet de la discussion, on parle d'une génération désenchantée, on entendait Mylène Farmer, on parle d'une génération désespérée, on parle d'une génération découragée. Qu'est-ce que vous choisissez comme qualificatif, Jean-Victor Blanc ?
Moi, je dirais une génération qui va être plutôt consciente des enjeux de santé mentale. C'est vrai que c'est une génération avec plusieurs indicateurs qui montrent que depuis le Covid, il y a eu plus de troubles anxieux, plus de troubles dépressifs, plus de troubles du comportement alimentaire. Néanmoins, c'est important de ne pas perdre de vue le fait que la majorité de cette génération est indemne de troubles psychiques. Ça, c'est vraiment important de le rappeler. Et de s'abstenir de ne pas non plus trop projeter d'angoisse sur cette génération qui, c'est vrai, a déjà suffisamment de choses sur sa barque.
Je vais vous donner un certain nombre de chiffres tout à l'heure. Vous allez voir, c'est dur. Comment vous qualifieriez cette génération, Frédéric Worms ?
Soucieuse et joyeuse, pardon. Moi, je suis beaucoup plus vieux que ça, mais je pense que c'est une génération qui est embarquée dans des défis qu'on n'a jamais connus. Et c'est vrai que pour les générations d'avant qui voyaient l'avenir au loin, là, vraiment, c'est des combats. Moi, je pense que quand il y a des vraies crises, ça motive aussi pour agir. Donc moi, je les sens inquiets, mais motivés. Je dirais motivés.
Je donnais tout à l'heure ces chiffres de l'Ipsos, hein, qui a publié hier son baromètre sur la santé mentale des adolescents, avec l'angoisse des jeunes face à l'actualité qui n'a jamais été si haute depuis la mise en place de l'étude. Il faut le dire, c'était en 2021, après la prise de conscience des ravages du confinement. À 24 ans, vous confirmez, Nirina, même si vos contenus Instagram cherchent à donner des clés de compréhension pour soulager les angoisses, l'actu n'a jamais été aussi angoissante.
Alors, il est vrai que l'actualité n'a... Comment dire ? Déjà, on est une génération qui est née avec la télévision. Nous, on a toujours connu la télévision. On est la première génération, peut-être, qui va passer plus de la moitié de son temps libre sur les écrans. C'est pas seulement que la situation est pire qu'auparavant, c'est qu'on a accès à beaucoup plus d'informations qu'auparavant et le contenu n'est pas filtré. Donc, ça peut jouer énormément. On est sans cesse bombardé. On est dans une société de la vitesse.
Où il est filtré en boucle, dans le même sens qu'on appelle le doom scrolling. On va rentrer dans une boucle de contenu... déprimant.
Oui, c'est exactement ça. Donc, je ne sais pas si l'actualité est pire qu'avant, mais il est vrai qu'on est une génération qui n'a connu que des crises et qui n'a pas connu d'ère de prospérité. On était jeunes, on était enfants pendant la crise de 2008 et on n'a jamais connu les 30 glorieuses comme les baby-boomers, par exemple.
Frédéric Worms, vous aviez publié cette tribune qui commençait comme ça. C'était une citation détournée de Françoise Hardy. C'était le temps des copains, le temps de l'amour et de l'aventure. C'est fini ?
Non, je pense pas que ce soit fini. Ce qui a vraiment changé, en fait, je pense, c'est le rapport à l'avenir. En fait, c'est vrai que c'est l'information constante sur le présent, mais qui pouvait être une sorte, ça aurait pu être une concurrence des actualités de toutes sortes. Mais la vraie question que je me pose en voyant aussi les étudiants, les étudiantes, c'est effectivement, est-ce que le rapport à l'avenir leur paraît complètement bouché ? Moi, il se trouve que j'ai un étudiant qui fait une thèse là-dessus, sur le problème philosophique de l'avenir. Et il m'a dit clairement, mon sujet a disparu. Il y a même plus de... Est-ce qu'il y a encore un avenir ? Est-ce que c'est pas plutôt vraiment la question de la possibilité d'un avenir à court terme, à moyen terme et même à long terme à cause du climat, à cause de grandes... Donc la représentation du temps me semble être le gros problème de cette génération, de se situer dans le temps. Et je prends très au sérieux cette question du temps. Être angoissé par le temps, c'est une pathologie qui peut devenir très très grave.
Là, vous parliez donc en tant que directeur de l'école normale supérieure, donc de ce contact avec vos étudiants. Justement, le philosophe, le spécialiste de Bergson et donc aussi du temps et du moment, vous aviez forgé ce concept d'une urgence qui dure au moment du Covid par rapport à cette disparition donc de l'avenir.
C'est surtout la thèse que je défends et que je défendais et que je défends toujours et qui est un peu tirée de Bergson, mais pas seulement, c'est que quand on a un problème, il y a toujours une double peine. Tout problème dans la vie est en plus une angoisse temporelle. Si vous avez une urgence critique, il y a le problème vital, le cœur qui va mal, et puis il y a le tic-tac de la montre. Si vous avez une urgence climatique, vous avez des catastrophes et on vous annonce des trucs, et en plus, il y a la représentation de l'avenir qui, en plus de tout, vous hante comme tel. C'est-à-dire, pour être heureux, faut pas penser au temps. Et dès qu'on pense au temps, il y a un petit problème qui se passe. Je pense qu'une génération insouciante, et donc je ne pense pas qu'on soit dans une génération insouciante. Une génération insouciante, c'est celle qui ne se pose en fait pas la question de l'avenir, qui rencontre des amis, qui fait la fête, qui vit et qui construit l'avenir sans y penser.
D'ailleurs,
et
les
aujourd'hui,
études
je pense que c'est obsessionnel. On pense toujours au temps.
Ouais. Les études montrent que le problème, ça n'est pas tant ce que les jeunes font, mais ce qu'ils ne font plus. qu'ils ne font plus en termes d'échanges, en termes de jeux, en termes de rencontres. C'est aussi ce qui revient dans vos consultations. Là, je parle Jean-Victor au psychiatre.
Ouais. Bien sûr, c'est sûr que si on réfléchit à ce qui a changé, il y a vraiment le rapport aux réseaux sociaux et au temps passé sur les écrans qui à la fois alors, va mordre sur le reste du temps, notamment le sommeil, dont on sait que ça va être pourtant quelque chose de très important pour l'équilibre et la santé psychique. On sait aussi, et c'est pour ça que moi, alors, en tant que premièrement être humain, mais aussi psychiatre, j'essaie d'avoir un propos quand même assez modéré à travers le temps sur les écrans. C'est aussi du temps qui finalement est de socialisation, de temps de divertissement. Donc c'est sûr qu'on peut être effrayé quand on voit le temps passer sur les écrans. En même temps, ça correspond aussi à différents usages avant où on regardait la télévision, où on faisait d'autres choses sans passer forcément sur les écrans. Donc c'est vrai que je suis quand même assez précautionneux sur le fait de pas non plus diagnostiquer à tort et à travers cette génération.
Ce qui reviendrait à dire que le problème est plutôt apparu en 2010 au moment des réseaux sociaux qu'en 2020.
Ce qu'on sait en tout cas du point de vue de la santé mentale, c'est que le confinement, le déconfinement et la pandémie a été surtout une sorte d'accélérateur et de révélateur. Il n'y a pas eu de nouvelles pathologies pendant le confinement, mais en revanche, c'est vrai que ça a accéléré des choses qui étaient déjà à l'œuvre. L'augmentation des troubles psychiques dans toutes les classes de la population et notamment chez les jeunes, elle augmentait déjà depuis des années avant. Alors avec plusieurs éléments explicatifs, on sait qu'aujourd'hui, on diagnostique mieux, on détecte mieux plutôt beaucoup de pathologies et les pathologies psychiques. Donc il n'y a pas que derrière ça des mauvaises nouvelles. Après, il y a aussi des facteurs qui font que probablement qu'il y a plus de pathologies. Et là-dessus, les facteurs d'explication, on peut avoir aujourd'hui des hypothèses. Oui. Parce que dans un raisonnement scientifique, on peut pas. Il va falloir des études, il va falloir du temps et du recul pour vraiment être certain de ce qui se passe. Mais dans ces éléments, il y a eu clairement un effet, une cassure avec le Covid. Il y a probablement aussi le rôle des effets et surtout des écrans et des réseaux sociaux.
On va écouter la parole donnée aux étudiants justement à travers des notes vocales. Au moment du confinement, c'était un contenu proposé par Hugo Décrypte qui depuis est devenu la principale source d'information des jeunes.
Mais en réalité, je me rends compte que j'ai quand même des signes qui me montrent à moi-même que ça va pas.
Je suis tombé un peu dans l'alcool, que je suis rentré dans les médicaments, les anti-anxiolytiques.
Je suis sous antidépresseur. Depuis la crise du Covid, je fais des crises de boulimie à répétition et je ne sais pas comment m'en sortir. J'ai mon corps qui me montre que ça va pas et le plus gros truc, ça a été ma perte de poids. Quand est-ce que notre détresse va être prise en compte à sa juste mesure ?
L'appel à l'aide de notre génération, c'était donc en janvier 2021, Hugo Décrypte. On l'entend, il y a aussi la question de l'addiction qui filtre dans ces témoignages. Justement, Jean-Victor Blanc, vous en tant que psychiatre, vous avez mis l'accent là-dessus dans vos alertes sur ce que ça a engendré. C'est surtout une addiction, une décompensation à ce moment-là, en fait, qu'on a toujours en fait dans notre réel maintenant.
Exactement. L'idée, c'est que l'addiction, c'est finalement favorisé par des facteurs de stress et des moments où des personnes vont se trouver finalement dans un environnement stressant, accablé avec des incertitudes sur l'avenir, ils vont avoir tendance à se tourner vers des choses immédiates qui leur font du bien. Et c'est vrai que là-dessus, les substances, l'alcool, mais aussi le mésusage des anxiolytiques ou des nouveaux produits de synthèse, il y a vraiment une flambée pendant le confinement. Et c'est vrai que ce qui est assez préoccupant pour le coup, c'est qu'aujourd'hui encore, on continue de recevoir des patients qui disent c'est au moment du confinement que les choses ont dérapé, que j'ai perdu le contrôle ou que j'ai vraiment finalement aggravé mon addiction. Et que ça, pour l'instant, on n'est pas certain qu'on ait dépassé le plateau et qu'on soit sur une phase de reflux.
Comment vous l'avez vécu, vous, justement, Nirena? Vous aviez quoi, 18-19 ans? Vous avez fait Sciences Po Lille et Centrale Lille. Je le disais, vous étiez en prépa à ce moment-là? Vous étiez à quel moment dans vos études?
À ce moment-là, le confinement a commencé quand j'étais en première année à Sciences Po. Et c'est vrai que c'était un moment assez spécial, assez difficile. Du jour au lendemain, on nous a dit de rentrer chez nous. Et du jour au lendemain, on a perdu tout contact social parce que, tout simplement, on n'avait pas le droit de sortir, parce que c'était le confinement. Moi, j'étais en première année, donc au milieu de la première année. Et donc, je venais de me faire des amis, je venais de rencontrer des gens à Sciences Po Lille. Et tout d'un coup, certes, on gardait le lien social grâce aux réseaux sociaux, mais ce n'était pas du tout la même chose. Et ce type de socialisation, il a duré un an et demi, avec de grosses restrictions. Donc c'est vrai que c'était quand même quelque chose qui était assez assez difficile à vivre. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on n'a pas tous vécu le confinement de la même manière. Il y a des gens qui ont vécu le confinement dans des grandes maisons, avec de l'espace, avec des grands jardins. Et il y a des étudiants, par exemple, qui ont vécu le confinement dans des tout petits appartements. Là encore,
les logements universitaires, parfois du Crous, etc.
Vous voyez, là encore une fois, c'était encore plus compliqué. Et en plus, ça a aggravé, j'imagine que ça a très fortement aggravé la précarité de certains étudiants parce qu'eux-mêmes n'étaient plus en mesure de travailler. Et je pense que oui, ça a créé un gros problème. Et en plus de ça, moi, j'étais à Sciences Po Lille à ce moment-là, mais j'imagine que ça a dû créer encore peut-être davantage de problèmes pour les lycéens par rapport à leur éducation, par rapport aux cours qu'ils ont reçus. Non, c'était un véritable problème.
Donc ça, c'est votre expérience personnelle. Ensuite, moi, je voudrais vous confronter à ces chiffres qui nous rendent, on va dire, concrète cette stagnation de l'après-confinement, dans la dégradation justement du ressenti. Alors, je vous le donne. Donc, le rapport de l'ONU, publié au début du mois de mars, basé sur une étude régulière de la population dans 6 pays occidentaux, États-Unis, Royaume-Uni, Irlande, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, il montre un effondrement du bien-être déclaré des 18-30 ans en 10 ans. Au Royaume-Uni, par exemple, le pourcentage des jeunes vingtenaires classifiés comme désespérés a doublé. On est passé de 8 à 16%. En France, il y a une étude de la Fondation April menée auprès des 18-25 ans qui est sortie en juin dernier. 4 jeunes sur 10 ont déjà pensé au suicide. Je continue dans les données sinistres, pardon, mais c'est important. Dernier rapport mondial sur le bonheur, coordonné par le Centre de recherche sur le bien-être de l'Université d'Oxford et l'Institut Gallup, il affiche, je cite, des baisses déconcertantes chez les jeunes, toujours en particulier en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Et là, la question du bonheur. Comment est-ce que vous interprétez cette dégringolade, Frédéric Worms ? Et on voit, ça dépasse le moment du Covid maintenant.
Oui, mais ça y ramène. Et en fait, ce qui me frappait aussi en vous écoutant, c'est qu'en fait, on le savait déjà sur le moment. Moi, il se trouve que pendant la pandémie, j'étais encore dans mon deuxième mandat au comité d'éthique, au comité national d'éthique français, avec Jean-François Delfrécy présidait. En fait, il s'était mis en retrait pendant qu'il présidait le conseil scientifique, tout le monde s'en souvient, auprès du président de la République. Et en fait, il y avait déjà, c'est ça qui me frappe beaucoup, cette préoccupation était là. Et c'était même un engagement, en quelque sorte, des citoyens. Il y avait un pacte, en principe, de la société, parce qu'il y avait ce débat très, très fort, politique, en fait, de justice profonde. Et je me souviens qu'il était très explicite. On doit protéger les plus vulnérables, en particulier les personnes âgées, mais on sait qu'on met en danger, notamment les jeunes, à travers ce confinement qui isole, qui précarise, qui va avoir des conséquences à long terme. On le savait. Et pour moi, un peu comme la priorité pour les soignants, la priorité pour les personnes les plus exposées, on a dit sur le moment, on s'est engagé, je vais dire, socialement, la société française avait pris une sorte d'engagement à l'égard des jeunes. On sait que ça va avoir des effets sur vous en particulier, parce que vous n'avez pas eu le temps de vous construire, parce que c'est un moment particulièrement précaire psychiquement et socialement.
Oui, il faut le rappeler, c'est un moment charnière.
Un moment charnière dans la vie
humaine. Où il y a le plus de troubles.
Voilà, on a un psychiatre. Voilà. Moi, je trouve que c'est absolument fondamental. Il y avait cet engagement, et un peu comme tous les aspects du Covid, on se retrouve 5 ans après en se disant « Ah bah oui, zut, tout ce qu'on a dit se produit. Est-ce qu'on a mis les moyens socialement ? Est-ce qu'on a mis l'accompagnement ? Est-ce qu'on a tenu compte de ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on est vraiment là comme on s'y était engagé ? Parce qu'il fallait sauver les vies des personnes âgées. C'était difficile de faire un choix, mais je me souviens que j'avais participé à une émission, je crois bien que c'était sur cette antenne, la guerre des jeunes contre les vieux.
Ouais.
Est-ce que c'est un conflit est-ce qu'il faut choisir entre les jeunes et les vieux ? Et à l'époque, tout le monde avait dit qu'il faut choisir le plus urgent, justement, à cause du temps. Une vie qui est menacée maintenant, on doit la sauver, même si on met en danger quelqu'un pour plus tard. Mais en fait, il faut compenser après.
Donc il y a eu un effet de hiérarchie et puis après, il n'y a pas eu de compensation.
Maintenant, faut assurer.
Jean-Victor Blanc, vous êtes d'accord ? On a failli, en tout cas, à la promesse de ce sacrifice à ce moment-là ?
Oui, plusieurs choses importantes. Alors, si on parle autant de la santé mentale des jeunes, c'est parce qu'effectivement, les jeunes sont particulièrement touchés par les troubles psychiques. La plupart des grands troubles, le trouble bipolaire, les troubles dépressifs, l'addiction, la schizophrénie, commencent entre 15 et 25 ans. Donc c'est vrai que c'est finalement des pathologies plutôt qui touchent les jeunes. C'est vrai également pour les conduites suicidaires. Donc ça, c'est le premier élément. Le second, et je partage le constat qui a été fait, c'est que le quoi qu'il en coûte, on voit que finalement, il a surtout servi à protéger des intérêts économiques, à sauver les grandes entreprises, des vies humaines.
mènent les, donc nos aïeuls.
Des vies nos humaines, certainement de manière très aiguë, avec effectivement les préserver à tout prix, mais en tout cas, dans la suite de ce qui s'est passé, pour le coup, pas du tout, puisque le système de soins, il a été quand même globalement malmené, et il n'y a pas eu cette espèce de promesse et d'élan de financement, et notamment encore moins pour tout ce qui est de la santé mentale. Donc si aussi aujourd'hui on se trouve dans une situation qui est aussi préoccupante, c'est pas tant que finalement les troubles psychiques aient augmenté, parce qu'on l'a vu, quand une pathologie virale apparaît, on trouve les moyens pour la prendre en charge, on trouve les moyens, on sollicite, on alerte, et ça fait pas débat. Quand il s'agit de troubles psychiques, en fait, les urgences sont pleines à craquer de patients dont on ne sait pas et donc qu'on ne peut pas accueillir dignement, voire même physiquement, littéralement, on n'a pas de lit pour les accueillir. Et pourtant, tout le monde fait l'autruche et ce n'est pas du tout un sujet qui est prioritaire, en tout cas au niveau politique.
Génération désespérée, désenchantée, angoissée, abandonnée. Carrément, quelle question, quelle angoisse aussi, c'est vrai. Parfois, vous restez avec nous, on va essayer de trouver des solutions. Sur Inter, c'est un hymne initialement posté sur YouTube en 2019, avant le Covid, par la nouvelle superstar du rap Doshi. Elle a décidé de réenregistrer la chanson qui semble cette chanson de Gauthier, peut-être que vous avez reconnu, Somebody That I Used To Know. Il avait été lui-même samplé par un grand guitariste de bossa, Louise Bonfa, et elle-même a été samplée par un rappeur, Doshi, avant qu'enfin elle soit reconnue. Depuis sa sortie début mars, c'est un véritable carton, ce titre, sur toutes les plateformes d'écoute. C'est tout simplement l'une des chansons les plus écoutées dans le monde en ce moment. Et ça nous en donne le tempo. Anxiety, anxiété.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Un monde nouveau, toujours avec le philosophe Frédéric Worms. Bon, rebonsoir, j'ai envie de vous dire. Le psychiatre Jean-Victor Blanc, rebonsoir. La créatrice de contenu Nirina, rebonsoir. Et parce que j'ai envie de vous faire réagir à cette notion d'anxiété sur laquelle on n'a pas encore rebondi, qui donne aussi son titre à un livre, Génération anxieuse, d'un psychiatre américain, Jonathan Haidt. C'est un best-seller américain qui est sorti aux arènes, introduit en France. Anxiété, est-ce que c'est le bon mot pour vous, Nirina, pour décrire cette génération ?
En même temps, il est vrai qu'on est anxieux, mais je trouve que dire qu'on est anxieux, c'est peut-être omettre les conditions qui font qu'on est anxieux. C'est un fait, on est anxieux, mais on est anxieux parce que notre contexte économique et politique et nous est complètement défavorable. Je pense qu'il ne faut pas individualiser le problème en disant c'est les jeunes qui sont anxieux. Non, on a un véritable problème. On est dans un monde, on est une génération où tout va trop vite. On a toujours connu les technologies. On est dans une forme de société liquide, comme dit si bien le philosophe Bauman, où tout va trop vite, on favorise la vitesse. Il y a quelques années, la génération des baby-boomers, lorsqu'ils avaient 18 ans, ils n'avaient pas besoin du bac pour trouver un travail. Nous, on fait des bacs plus 5. Parfois, on est obligé de faire des bacs plus 7. Le chômage nous guette. C'est pas simplement qu'on est anxieux. Enfin, nous sommes anxieux, mais nous avons des raisons d'être anxieux. Je pense que si les générations précédentes avaient eu des conditions semblables aux nôtres, elles seraient également très anxieuses.
Il y a la question de l'information aussi. Je parlais de cette étude. Donc, une génération qui est pour la première fois angoissée à un niveau inédit par l'actualité. Une étude qui date d'avant les ruptures géopolitiques qu'on connaît avec l'alignement donc, entre les États-Unis et la Russie. Donc, rupture avec notre allié historique des États-Unis. Et finalement, ces réseaux sociaux qu'on compare parfois à l'arrivée de la voiture sans ceinture, quoi, qu'on aurait donné aux jeunes en leur disant « débrouillez-vous avec ». Vous avez le sentiment, puisque vous êtes créatrice de contenu et que vous officiez là, Nirina, qu'il y a eu une accélération de l'anxiété par le contenu qui est proposé sur les réseaux ?
Oui, bien sûr. Sur le contenu des réseaux sociaux, on se compare sans cesse aux autres. Avant, la personne, disons, qui avait le plus de succès professionnel de notre entourage, c'était peut-être un de nos voisins. Aujourd'hui, c'est un multimillionnaire qui a 18 ans. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'on se sent mal, parce qu'il y a une forme de proximité générationnelle. Quand, par exemple, on a 25 ans, ce qui est très jeune, et qu'on voit quelqu'un qui a 20 ans, qui est extrêmement riche, qui est entrepreneur ou je ne sais quoi, on se sent pas bien. Et il y a cette comparaison constante sur les réseaux sociaux qui induit une forme de mal-être chez les jeunes. Et puis, il ne faut pas oublier que les algorithmes, justement, vont favoriser ce contenu sensationnel parce que c'est celui qui fait réagir, c'est celui qui fait des clics, c'est celui qui fait des vues. Donc, bien sûr qu'on va se sentir mal parce que tout est fait pour qu'on se sente mal.
Ce sont les violences faites aux enfants qui arrivent en tête des angoisses. C'est maintenant l'état du monde avant l'état de la planète qui était en deuxième position avant. Donc, il y a quand même eu un basculement. Est-ce que l'état du monde, il a concrètement un effet sur l'anxiété, est-ce que c'est mesuré ça ?
Oui, alors c'est difficile de faire une réponse univoque. Ce qui est certain, c'est que dans les troubles anxieux, donc les personnes qui vont avoir une maladie liée à l'anxiété ou une maladie liée à la dépression également, le contexte environnemental, l'actualité va teinter finalement les angoisses. Pendant les attentats, c'est vrai que tous les patients aux urgences faisaient référence à ça. Pendant le Covid, les patients avaient l'impression que c'était de leur faute la pandémie ou qu'ils allaient trouver un vaccin, etc. Donc c'est sûr que culturellement, ça a toujours été le cas, ça va venir colorer les troubles. Néanmoins, et c'est ce qui est important, c'est pas non plus des troubles qui sont arrivés avec le monde moderne. C'est vrai que les troubles anxieux, le suicide ou le trouble bipolaire, c'est des choses qui sont décrites quand même depuis l'Antiquité.
Donc Frédéric Worms, vous, comment est-ce que vous réagissez à ce lien qu'on peut faire éventuellement entre l'état du monde et l'état psychique, et cette thèse aussi, en effet, de Jonathan Haidt, qui est qu'au fond, l'anxiété, elle provient pour lui d'abord des réseaux sociaux, donc la bascule, elle se produirait en 2010, et puis pour lui aussi, d'un rapport à l'enfance qui a changé. C'est sa théorie. On est moins exposé au danger, on le vit moins bien plus tard.
Oui, moi je suis surtout frappé par ce que Nirina a dit tout à l'heure, qui m'a beaucoup frappé, c'est-à-dire il y a des raisons d'être anxieux. Et je pense en effet, on se dit, on l'est déjà les générations plus âgées, mais c'est vrai qu'on se dit comment aujourd'hui les jeunes prennent tout ça qui définit un peu la toile de fond maintenant. L'horizon, c'est un peu l'anxiété. Et le risque, justement, c'est qu'il y a des raisons précises pour chaque danger, en fait, pour chaque peur concrète, mais ça produit une sorte, le tout produit une sorte d'anxiété générale, presque sans objet, diffuse, et c'est vraiment ce climat d'anxiété qui est dangereux aussi, lui-même est un danger, en fait. Parce que philosophiquement, par exemple, il y a une distinction ancienne qui était entre la peur et l'angoisse. La peur, c'est un danger précis, et on sait quoi faire, finalement. Il y a des réactions dans notre corps, il y a des réactions sociales, et l'angoisse, c'est une angoisse, une peur sans objet. Une peur de l'avenir en général, une peur de la mort aussi en général. Et le problème avec l'anxiété ou l'angoisse, c'est que comme c'est, finalement, ça n'a plus d'objet concret apparemment, eh bien, on peut en être perturbé comme tel, c'est angoissant en soi. Mais en plus, je pense que c'est manipulable. Et je pense que face à cette angoisse, il y a du divertissement. On se réfugie dans les réseaux sociaux comme refuge qui aggrave le problème. Parce qu'en plus, ça va être manipulé. Évidemment, on voit que la haine en ligne, que la violence, ça se greffe sur cette anxiété qui n'est plus d'objet précis. Et moi, je pense que la vraie réponse, c'est pas d'être dans le déni des problèmes. C'est au contraire de ramener l'anxiété diffuse, manipulable, généralisée à des dangers précis. Avec des actions précises. Pour se sentir utile aujourd'hui, c'est lutter contre des dangers. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des dangers. Dire aux gens « tout va bien », bah, c'est mentir. En même temps, dire « tout va mal », c'est mentir aussi. On peut faire des choses contre des sujets concrets. Je pense même que quand on identifie un danger, on a un critère du progrès. On sait que ça peut aller mieux. Ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est l'usage généralisé à la fois de la panique et du déni. Moi, j'avais même, pendant la pandémie, j'avais parlé de pandénie, c'est-à-dire du déni complet, du déni de tout, du déni de... Il y avait ceux qui nient aussi les mots, ceux qui ont nié le danger de la pandémie, ce qui était très dangereux aussi.
Ou même, on le voit aujourd'hui, vous dites nier les mots, c'est vrai que le premier effet de l'arrivée de l'administration Trump a été de supprimer un certain nombre de mots.
C'est ça, donc on casse le thermomètre, donc il n'y a plus de maladie, quoi. Donc, voilà. Et en fait, non. Il faut au contraire lutter avec la science, avec des gens, avec la société, contre des dangers concrets pour lutter contre l'anxiété diffuse. Voilà. Donc c'est extrêmement important.
Donc ça a toujours été là, mais c'est accéléré par le climat anxieux lui-même. On voit d'ailleurs dans les études sur l'anxiété par rapport à l'actualité, c'est l'incompréhension qui domine avant la colère. Mais il y a aussi une inégalité profonde, je voudrais absolument qu'on parle ce soir. C'est par rapport à cet état d'anxiété, l'inégalité entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. Elles sont particulièrement touchées. Elles sont particulièrement dans les enquêtes celles qui voient le moins l'avenir et celles qui retournent davantage, on va dire, la violence du monde contre elles. Toutes les statistiques, je ne vais pas vous redonner les chiffres, vont dans ce sens. Nirina, est-ce que vous l'expérimentez vous-même déjà en tant que créatrice de contenu sur les réseaux, jeune fille de 24 ans ?
Alors, quand j'étais plus jeune, oui, parce que quand j'étais plus jeune, je passais beaucoup plus de temps sur le téléphone qu'aujourd'hui. J'étais beaucoup plus dans la comparaison, j'avais beaucoup moins de recul. Aujourd'hui, je l'expérimente à titre personnel un peu moins, mais je sais que c'est un problème qui est systémique dans la société. Et le problème, je pense que c'est qu'en tant que jeune femme, on est constamment dans la comparaison. Lorsqu'on regarde le contenu sur les réseaux sociaux qui sont destinés aux femmes, c'est uniquement du consumérisme. C'est uniquement des contenus qui visent à faire consommer les femmes, parce qu'on sait que les femmes sont des plus grandes consommatrices. Et pour faire consommer les femmes, on leur crée des insécurités en tout genre. Tous les 6 mois, il y a un nouveau mot pour décrire une insécurité. Il y avait le taille gap, l'écart entre les cuisses.
C'est quoi alors le taille gap ? C'est l'écart entre les cuisses, il fallait l'avoir d'une certaine taille pour être dans la norme, c'est ça ?
Oui, à un moment, pour être dans la norme de beauté, il fallait avoir un trou entre les cuisses.
Que les cuisses ne se touchent pas.
Oui, c'est ça. Et ça, il y en a absolument. Tous les 3 mois, il y a le Cantal Lips. Ça, c'est l'écart qu'on a entre le nez et le haut de la bouche. Et en tant que femme, on est constamment bombardé de micro-détails. Et ça empire la situation. Et c'est un vrai problème. Et je pense qu'il faut que les algorithmes arrête de valoriser ça. Et il y a un second problème aussi. Bien sûr, tout n'est pas la faute des réseaux sociaux, mais c'est qu'on a une émergence d'une forme de contenu qui est masculiniste. Que ce soit les contenus d'Alexis Chen ou ceux de Thaïs Descuffon qui te disent qu'en tant que femme, tu es périmée après 25 ans, tu ne vaux plus rien.
Alors, tu ne peux pas sortir après 22 heures parce que tu as le physique d'un enfant de 12 ans. Je cite Alexis Chen, c'est un influenceur masculiniste français.
Oui, et ça crée une sorte de fossé entre les deux sexes et c'est un véritable problème. Ça crée de l'angoisse.
On va arranger la situation grâce à Apolline Humblot. On l'aime énormément ici à France Inter puisqu'on l'a découvert dans Nouvelle Tête. C'est une jeune fille de 18 ans aujourd'hui qui ne baisse pas les bras et lutte à sa manière contre l'éco-anxiété. Vous restez avec nous sur Inter.
Qu'est-ce que je fais sur la scène ? Pendant que le temps s'arrête pas de courir comme le lapin du Duracell, un peu traumatisé par cette vie. Par les silences et les plates pattes où on voyait trop l'assiette, papy m'a vu sur la chaîne, il m'a dit c'est un bug, la télé déconne, ça fout la flemme. Y'a pas longtemps il est parti, sans prévenir personne, avec une cigarette qui brûlait comme un cierge. J'parle un peu trop fort et je veux plus qu'on la ferme jamais. Mamie s'est brisé le cœur en tombant dans les escaliers. L'orage le laisse parler, le temps nous blesse. On pourrait croire que la vie nous teste. Les coups durs c'est comme les vieux, je laisse passer. Beaucoup d'amour, pas beaucoup de degrés Celsius. Trajectoire floue comme les ballons quand la balançoire faisait le but. Faudrait que tu manges un petit truc, ma mère elle dira toujours ça. Pour toi j'aurais toujours faim et sans toi j'aurais toujours froid. Rien n'a changé, y'a des enfants dans les tôles. Je viens de là où tu t'en doutais pas, mais t'as un oncle dans les rôles. Histoire de promesses sous le préau, de poussière sous le tapis. Je suis bien élevé, mais je dirais des gros mots toute ma vie. Je suis venu comme je suis, je résiste pas. Dis-toi que je connais les mêmes crises que toi. Je laisse couler les larmes, je fais fuir le diable. Pareil que les miracles n'existent pas. N'existe pas, j'ai déjà passé un entretien en Kipsta, j'ai eu le job. Donc je crois en tout comme les fous. Je crois en moi, je crois en nous, je crois pas les mecs en costume ou que la branlette, ça rend sourd. Je rappe comme un salopard. On s'est lavé dans des bassines comme 25G dans le clip de Cabochard. J'ai peur qu'on me laisse tomber, j'aime pas quand elle me dit à l'occasion. Ma mère, elle veut pas de cadeau, elle veut juste que je sois pas en retard. Je me réveille, j'ai toujours le même poids sur les paupières. 10 minutes dans l'eau bouillante, je mets toujours le même pot sur les coquettes. Trop fier pour négocier comme quand papy payait trop cher. Trop fier pour pas se relever après le crochet, j'étais fauché comme les blés. Ma vie ça coupe comme l'épée. On est tombé, on est revenu avec une envie de tout baiser. Elle a vu ma gueule toute blessée et elle m'a trouvé beau. Ma gueule même quand t'es tout zéro, y'en a pour quitter le grand héros. Je suis fatigué et je sens le bédo. Nique sa mère, ça pue plus la défaite. J'écoute pas mon président, j'écoute les histoires de la caissière. Le juge et la greffière et leurs airs dont vous l'avez dit. Je vous souhaite des heures d'embouteillage dans une voiture qui coûte les acédiques. Je suis venu comme je suis, je résiste pas. Dis-toi que je connais les mêmes crises que toi. Je laisse couler les larmes, je fais fuir le diable. Pareil que les miracles n'existent pas.
Paraît que les miracles n'existent pas, c'est le nom du nouvel album de Ben PLG, le rappeur lillois. Si vous avez joué chez vous, oui, le sample, l'échantillonnage, c'est Moby. Et ça nous ramène au début des années 2000. C'est un ancien travailleur social à la prison pour mineurs, dans les maisons de retraite, à l'hôpital psychiatrique. Ben PLG, il a financé sa musique en aidant les autres et compte bien continuer à le faire dans ses textes maintenant qu'il en vit. C'est ça aussi le futur.
Mathilde Serrel, un monde nouveau sur France Inter.
On est ensemble jusqu'à 19h avec le directeur de l'école normale supérieure, Frédéric Worms, qui est aussi philosophe, le médecin psychiatre qui aime la pop culture, Jean-Victor Blanc, la youtubeuse instagrammeuse Nirina, et désormais autour de la table, Apolline Humblot. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je vous avais reçu l'année dernière dans Nouvelle Tête, j'en parlais, c'est dans la matinale, dans le cadre du 7-10, vous avez 18 ans, et vous êtes la créatrice de cette appli Echo. Avant de parler de l'application, un petit retour en arrière, au moment du confinement, vous aviez 13 ans, vous, Apolline. Pauline, comment vous l'avez vécu ?
Oh bah assez mal, je vais pas mentir ici. Je pense que je suis un peu un cas d'école sur ce sujet-là parce qu'en fait j'ai remarqué ma propre souffrance par rapport au confinement et surtout j'ai remarqué celle des autres. En parlant autour de moi, beaucoup d'amis, comme on disait tout à l'heure, le confinement était un révélateur, en fait une sorte de moyen d'exposer les problèmes déjà existants. Et donc, mes amis qui avaient déjà parfois des difficultés se sont retrouvés confrontés à leur propre solitude, à leur propre détresse. Parfois, dans les familles, ça se passe pas toujours très bien. On est ramené à un milieu qui est différent de celui de l'école, où on peut peut-être échapper un peu à cette solitude-là. Et j'ai vu que le confinement avait vraiment eu un impact hyper négatif sur notre manière de penser et aussi de sociabiliser, parce que même si on passait beaucoup par les réseaux sociaux, par... les outils numériques, on s'est quand même éloigné des autres, en fait, d'une certaine manière.
Les outils numériques, vous vous y êtes investi très tôt, puisque vous étiez au cœur d'associations qui militent pour les femmes dans la tech. Vous êtes issu de cette génération aussi, donc, qui a pris de plein fouet le Covid, mais qui est aussi née avec les outils numériques. Comment est-ce que vous avez décidé de vous lancer, vous, dans une réponse technologique à ce que vivaient les enfants et les adolescents de votre âge, c'est-à-dire un sentiment grandissant d'anxiété par rapport à l'avenir de la planète.
Ça m'a semblé être le médium le plus approprié. Je me suis dit, je passe tellement de temps chaque jour sur mon écran, je vois ma famille aussi le faire, mes amis le faire. C'est un truc qui est global. Est-ce qu'on ne peut pas se servir de ces écrans pour proposer une espèce de bulle, un petit peu de lien avec les autres aussi, un endroit où on peut se reconnecter d'une certaine manière avec les gens. Et c'est un truc que je sais qui fait pas mal de débat parce qu'on se dit, oui, les écrans, ça nous éloigne les
Pourquoi replonger à nouveau dans les écrans avec tout ce qu'on se disait aussi à l'instant, des effets pervers de bulles dans la négativité.
Absolument, mais en même temps, on peut pas non plus supprimer le progrès maintenant qu'il est là. Je pense que ça serait prendre le problème à l'envers. Maintenant qu'on a tous accès à ça de manière illimitée, enfin, on a la chance en fait d'avoir une espèce de source de connaissances comme ça infinie. Et ça a ses défauts, mais ça a surtout ses qualités dans le sens où on peut l'exploiter de manière positive.
Vous avez deux volets hein, dans cette application. Il y a une partie qui va être dédiée à ce qu'on peut faire pour réduire son éco-anxiété sur le plan des symptômes, de la méditation, etc. Et puis de l'action, des solutions, de la participation à des projets. C'était les deux façons de répondre à l'angoisse, alors que, en effet, vous êtes submergé de données, de rapports, etc. Et puis aussi des missions qui vous rappellent que vous êtes une génération anxieuse.
C'est ça, exactement. Bah, c'est vrai que, comme on disait, il y a que l'action qui compte au final. À la fin de la journée, quand on a fait toutes nos, enfin tout ce qu'on avait à faire, pardon, à l'école, au travail, on se dit en quoi est-ce que j'ai contribué vraiment à aller dans le sens où je voulais aller. Est-ce que quand je me couche le soir, la société s'améliore un peu plus grâce à moi. Je pense que c'est quelque chose qui, enfin, le fait d'avoir un impact concret sur les choses, à notre échelle évidemment, parce qu'on ne peut pas sauver le monde comme on dit, mais ça peut nous aider à se remettre sur un chemin où on se dit je sers à quelque chose. Quand on est plongé dans un état d'angoisse, de déprime profonde, que j'ai pu observer autour de moi, et puis moi-même, je ne vais pas mentir, ça m'arrive assez souvent, je me dis en quoi est-ce que je contribue? En quoi est-ce que ma présence a une utilité?
Vous dites aussi que c'est une génération qui a le syndrome du sauveur. C'est écrasant et stimulant en même temps, Apolline Imbleau.
Oui, clairement. Je pense que, surtout, on parlait des femmes aussi. Les femmes, on leur a toujours mis ce rôle sur les épaules. Je ne veux pas généraliser ou quoi que ce soit, mais je pense qu'en tant que femme, on nous a appris dès le plus jeune âge à nous remettre en question en permanence. Nous dire, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que c'est bien vu? Est-ce que c'est bien... c'est apprécié, mon action? Et oui, je pense qu'en tant que jeune, on nous répète tout le temps... en fait, c'est soit on agit et on est envié, soit on n'agit pas et on est... J'ai le mot en anglais et pas en français.
Oh, dites-le en anglais.
Lazy.
Excusez-moi, paresseux. Fainéant, la fameuse génération qui se fait livrer par Uber Eats, la génération flemme canapé, qui veut plus bosser, etc.
Ouais, c'est ça.
Et est-ce que vous avez le sentiment autour de vous qu'il y a aussi une redéfinition de ce que peut être ce temps de la jeunesse et qu'il y a peut-être une fiction, justement, d'insouciance, peut-être héritée, je sais pas, des Trente Glorieuses, héritée d'un vécu qui vous concerne peut-être plus aujourd'hui, qu'il faut réinventer du coup d'autres idéaux?
Je crois qu'on nous a vendu la jeunesse comme un moment sans responsabilité, sans aucun poids sur nos épaules du coup. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Parce qu'en fait, on a une responsabilité énorme. Bon, déjà, je pense que les générations d'avant aussi, mais c'était pas les mêmes. On n'a plus les mêmes rêves, on n'a plus forcément envie de travailler toute notre vie pour atteindre un objectif qui est celui d'être propriétaire, d'avoir une famille. Aujourd'hui, tout ça, c'est bouleversé par les crises qu'on rencontre et par la manière dont on en est informé. Du coup, je dirais que dire que la jeunesse n'est pas responsable, ça serait vraiment ignorer le problème, en fait. On se sent responsable. Et moi, je sais que, en tant que femme, en tant que jeune fille, je me sens énormément responsable de tout ce qui se passe autour de moi, de comment j'aide les autres aussi.
Quand vous avez commencé à militer, d'ailleurs, c'était aussi parce que vous considériez que les outils de la tech étaient un peu aux mauvaises mains et qu'il fallait réinvestir ces outils pour en faire autre chose. Comment est-ce qu'elle vit, cette application, maintenant que vous avez été accompagnée, mentorée, financée, Apolline Imbleau?
Elle évolue, elle prend du temps. Parce que moi-même, j'ai eu des petites difficultés cette année et ça a réaffirmé le besoin de cette application, qu'elle existe en fait. Je me suis dit à plusieurs moments, est-ce que c'est vraiment le bon choix d'utiliser du coup les outils numériques? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de pertinent? Mais en voyant tout le soutien que j'ai reçu autour de moi, je me suis dit, mais en fait, les gens attendent ça en fait. Attendent une création de communauté, un moyen où on peut se... parler avec d'autres gens qui sont conscients en fait de ce qui se passe.
Nirina, c'est ça l'enjeu pour vous aussi en tant que créatrice de contenu et aussi appartenant à cette génération, de le créer ce collectif, parce qu'il y a les bons diagnostics, il y a les bons élans, mais il n'y a pas encore la forme collective.
Alors oui, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, c'est vrai que je scrolle quand même pas mal sur TikTok et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes individuellement qui sont en train de se plaindre de la situation, que ce soit la situation écologique, la situation sur le marché de l'emploi, qui est quand même relativement bouché, même si on a un bac plus 5. Je vois énormément de plaintes, mais c'est vrai que le défi, ça va être de s'organiser collectivement. Parce que si on est chacun dans notre coin à déplorer les problèmes que l'on rencontre, on ne va rien créer à plus grande échelle. C'est pour ça que je trouve que c'est une excellente idée de créer des petites communautés autour de sujets qui nous tiennent à cœur. C'est une idée qui est brillante.
Frédéric Worms, la question de l'action, donc vous l'avez souligné, la question du collectif, c'est la deuxième, la plus importante dans ce débat-là.
Oui, tout à fait, c'est-à-dire se saisir de l'action, du savoir, et puis collectivement, et retourner les outils qui peuvent devenir aliénants en outils d'action et d'émancipation, et de création aussi.
Moi justement, je voudrais voir avec vous cette question, Jean-Victor Blanc, de la communauté. Moi, il me semble qu'avec Pop et Psy, votre compte Instagram, là on a l'expérience donc d'un outil numérique potentiellement isolant qui va finir par créer une communauté et en agrégeant des figures de pop culture, Louane, tiens, qui chante ce soir, qui va révéler sa chanson de l'Eurovision à la mi-temps France-Écosse, des gens comme Selena Gomez qui ont été très importants dans ces sujets. Finalement, vous avez réussi en agrégeant ces figures de pop culture à agréger aussi une communauté qui est à l'aise avec ça et qui aide les autres à ne pas résoudre tout seul leurs problèmes.
Exactement. Étant psychiatre dans le service public, on est bien conscient des difficultés que traverse cette génération. Néanmoins, ne cédons pas à la panique et au défaitisme. C'est vrai que les réseaux sociaux, on l'a entendu tout au long de la soirée, permettent aussi à des communautés de se faire, permettent aussi de s'inspirer, de trouver des nouveaux modèles. Et pour la première fois probablement dans l'humanité, on n'a jamais autant parlé de la santé mentale dans une société comme la nôtre. Pourtant, comme on le précisait, c'est pas non plus totalement nouveau. Donc ça, c'est très encourageant. Aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de faire avec Culture Pop et Psy, c'est aussi d'éveiller les consciences pour que ensuite, il y a un mouvement de société civile qui fasse que le politique soit obligé de passer à l'action.
Voilà.
Parce que honnêtement, ce serait n'importe quelle autre pathologie, n'importe quelle autre discipline, on ne tolérerait pas ça. On ne tolérerait pas 40% d'étudiants de lycéens qui dit j'ai mal au cœur et on fait rien. Là, 40% d'idées suicidaires, bon bah voilà, ça, c'est un chiffre, on se dit ah, qu'est-ce qui se passe? Et puis malheureusement, derrière, pas grand-chose, en tout cas, encore une fois, au niveau politique et santé publique.
Mais les communautés d'action arrivent avec vous, respectivement, on l'a bien compris, tous les quatre ce soir. Merci, grand merci d'avoir été avec nous, ça va beaucoup mieux. Merci à Pauline Imbleau. On suit donc le développement de votre application Echo. Merci à Frédéric Van, directeur de l'École Normale Supérieure. Votre dernier livre, c'était « Vivre en temps réel », entre autres, chez Bayard, en 2021. Et ça nous parle toujours aujourd'hui, bien sûr. Merci à Jean-Victor Blanc. On cite votre livre « Pop et Psy », donc chez Plon. On suit votre compte Instagram « Culture Pop and Psy », un festival Pop and Psy qui reviendra en octobre 2025. Et puis, dès la semaine prochaine, vous êtes au festival Nos Futurs à Rennes. Enfin, merci beaucoup, Nirina, d'avoir été avec nous. On vous suit sur les réseaux. Le compte Instagram, c'est Nirina YTB. Voilà. Merci, merci et merci à mon équipe. La rédaction en chef, c'est lui, c'est Redouane Tella. La réalisation, c'est lui, c'est Frédéric Milano. La préparation, c'est elle, c'est Marion Philippe. La programmation musicale, c'est elle, c'est Juliette L'Orphelin. La technique, cette semaine, c'est lui, c'est Guillaume Roux. Mais c'est à vous, ma chère Charline Van Hunecker, c'est l'heure de Bistroscopie. Vous avez qui pour l'apéro ?
Eh oui, ma chère Mathilde, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Et là, j'ai rendez-vous dans mon bistrot avec Camélia Jordana. Je savais que ça vous ferait envie. Bah, venez, venez. Bah, j'invite tout le monde à venir d'ailleurs. Il suffit de nous écouter.